Gloire au Seigneur. Est-ce que c'est une réalité, ce dernier chant que nous avons chanté, « Je n'ai que toi, je n'ai que Jésus ». En tout cas, c'est à cela qu'on aspire et c'est en expérimentant sa présence que nous pouvons toujours le vouloir davantage à nos côtés. J'aimerais vous poser une question cet après-midi avant de pouvoir introduire ce message par un texte biblique. Qui cet après-midi peut dire qu'il ne s'est jamais inquiété dans sa vie ? Est-ce que ça s'est arrivé ? Est-ce que c'est possible qu'une personne puisse dire « Mais moi, je ne me suis jamais inquiété ». Et pourtant, lorsque nous lisons la parole, et on va le lire, peut-être vous me voyez venir, vous pensez déjà à Matthieu 6, mais vous dites « Mais le Seigneur Jésus nous encourage, nous enseigne à ne pas nous inquiéter ». Et pourtant, on se rend compte qu'il peut y avoir un décalage entre ce que Jésus nous dit, ses enseignements, et notre vie pratique. Mais je pense que dans ce chemin-là, c'est dans cette expérimentation-là que nous devons aller, c'est-à-dire prendre les paroles du Seigneur Jésus-Christ et les mettre en pratique dans notre vie pour qu'il n'y ait pas d'écart entre ses enseignements, ses préceptes et notre quotidien. Nous allons donc lire dans Matthieu 6, vous l'aurez compris, à partir du verset 25. Nous lisons « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Amen. Je pense qu'on est d'accord avec cet enseignement. Et on a raison d'être d'accord. C'est la parole de Dieu. C'est là vraiment le cœur de Jésus qui est là, qui veut nous communiquer cette stabilité dans notre vie. J'ai recherché la définition de « inquiétude ». Alors bien sûr, tous ici, on pourrait en donner une, mais on pourrait comprendre que ce terme est tiré à son origine d'une traduction qui signifie « troublé », « agité ». On pourrait dire que quelqu'un d'inquiet, c'est quelqu'un qui est sans cesse en mouvement. Et d'ailleurs, c'est une bonne définition, celui ou celle qui bouge, qui est en mouvement constant. Une personne qui n'arrive pas dans sa vie, dans son existence, de manière physique, vous l'aurez compris, mais également dans son être intérieur, n'arrive pas à trouver de stabilité. Il va sans cesse de gauche à droite, essayant de trouver des solutions, essayant d'aller voir si là-bas c'est mieux qu'ici, si l'herbe est vraiment plus verte chez le voisin, ou si c'est nous qui avons l'herbe la plus verte, et ainsi de suite. Et c'est ça la traduction, le mot, la signification, vraiment à l'origine du mot « inquiétude », l'inquiétude. Et on comprend que lorsque Jésus nous dit, nous parle, nous révèle, et bien sûr là on aurait beaucoup de choses à dire, mais il a voulu vraiment nous révéler, nous recentrer sur l'essentiel, nous recentrer sur le royaume et la justice de Dieu, les affaires du Père, les affaires d'en haut. On n'a pas à rechercher ce que le monde recherche, parce que nous, si nous avons fait l'expérience de la nouvelle naissance, si notre vie est pour Christ, On ne doit pas non plus rechercher les attraits du monde, mais on doit rechercher les attraits du Père, ce qui est agréable au Père. Et en d'autres termes, on ne doit pas être en mouvement sans cesse. Il y a des temps, un temps bien sûr, où il est utile que nous puissions aller à un endroit, à un autre endroit, mais vous l'aurez compris, il y a une stabilité spirituelle, et cette stabilité spirituelle se répercute dans notre vie de tous les jours, parce que c'est à cela qu'on est appelé. Jacques pourra dire, et vous allez voir qu'on retrouve cela, bien sûr il dit cela dans le contexte de « si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse ». Mais bien sûr, on comprend qu'il y a un manque et qu'on demande. Donc il y a là la prière, la foi dans nos prières. Et regardez ce qu'il dit, qu'il la demande avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. C'est comme si Jacques mettait vraiment à la lumière la définition de l'inquiétude et du manque de foi. Parce qu'on en revient à cela, et on pourrait essayer d'y réfléchir, de le calculer, mais quand même, lorsqu'on s'inquiète, c'est qu'on perd de vue la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'on s'inquiète, on n'est plus centré sur Christ, on est centré sur nous-mêmes. Jésus va prendre les besoins vitaux de la vie, le manger, se rassasier, être vêtu, mais toutes ces choses, le Seigneur, et c'est ce qu'il nous dit, il le sait, mais nous ne devons pas rechercher, avoir les yeux fixés sur ça, et nous devons véritablement avoir les yeux fixés sur le royaume, sur ce que Dieu veut que nous puissions faire, ne pas perdre de vue la parole de Jésus-Christ. Garder cette foi, cette confiance dans l'amour de Dieu pour notre propre vie. Ne pas penser que finalement notre Père qui est dans les cieux nous a mis de côté pour qu'il puisse voir comment est-ce qu'on se débrouille, comment est-ce qu'on arrive à surmonter les épreuves de la vie. Mais Dieu est constamment avec nous si nous faisons ce qui lui est agréable. Mais en tout cas, je pense que cet après-midi, nous avons tous ce souci de faire la volonté de Dieu. Et quand bien même il y aurait une personne cet après-midi qui serait étrangère à Dieu, à Jésus-Christ, peut-être je ne vous connais pas, peut-être il y a là, dans ce lieu, des personnes qui ont voulu savoir, apprendre sur Jésus-Christ. Laissez-moi vous dire que vous ne serez pas déçus. Vous allez trouver en lui ce que vous n'aviez pas pu trouver ailleurs dans le monde, parce que Jésus-Christ est la vérité, le chemin et la vie. Une autre définition, et là qui est moins drôle, de inquiétude, il y a vraiment cette valeur négative dans ce mot, et c'est la destruction. L'angoisse, l'instabilité. L'inquiétude nous amène à détruire, à une destruction de nous-mêmes parce que ça nous ronge de l'intérieur. Et regarder Jésus-Christ, c'est cela. Alors bien sûr, c'est un positionnement spirituel cet après-midi, mais on doit vraiment apprendre à ne pas regarder à nous, à l'intérieur de nous, à ne pas rechercher nos capacités, à ne pas essayer de voir si on ne peut pas se passer de Dieu, si on ne peut pas se passer de la parole pour surmonter nos difficultés, mais à sans cesse revenir à la base de notre foi, aux paroles que Jésus-Christ a pu prononcer, parce que les paroles qu'il a prononcées sont esprit et vie. Et ce que Jésus-Christ a dit, peut-être nous avons la parole de Dieu, vous allez me dire, mais ça a été écrit il y a de ça des centaines et des centaines d'années, mais c'est la parole de Dieu, c'est cette parole qui est efficace, c'est cette parole qui est actuelle, et elle peut répondre à chacune de nos questions, elle peut nous amener à surmonter nos épreuves. Il y a un texte, et c'est mon premier point, qui m'a fait vraiment penser à ce que pouvait être l'inquiétude dans le quotidien. Et je l'ai intitulé « L'inquiétude vient lorsque nous pensons que Dieu va nous abandonner ». Et j'aimerais qu'on puisse lire ensemble un passage dans Exode, au chapitre 16. Exode, chapitre 16, et nous allons lire à partir du verset 16. Il est écrit, « Voici ce que l'Éternel a ordonné. Il s'agit de la manne. On ne peut pas lire tout le contexte. Il s'agit de cette nourriture divine. Il s'agit de comment Dieu a pourvu au peuple d'Israël. Et voilà ce qu'il est écrit. Voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, un homère par tête, suivant le nombre de vos personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Les Israélites firent ainsi, et ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins. On mesura ensuite avec l'homère, ceux qui en avaient ramassé plus n'avaient rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Il ne fallait pas qu'ils fassent des provisions. Ils n'écoutèrent pas Moïse, et il y eut des gens qui laissèrent jusqu'au matin. Mais il s'y mit des vers, et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture, et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Le sixième jour, il ramassait une quantité double de nourriture, deux homères pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Ils le laissèrent jusqu'au matin comme Moïse avait ordonné, et cela ne devint point infect, et il ne s'y mit point de vers. Moïse dit, mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour, qui est le sabbat, il n'y en aura point. Le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser, et ils n'en trouvèrent point. Alors l'Éternel dit à Moïse, Jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Jusqu'à quand? Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours, que chacun reste à sa place et que personne sort du lieu où il en est au 7e jour. Amen. Amen. Vous l'aurez compris, je pense que vous me voyez arriver peut-être cet après-midi. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas. À chaque jour suffit sa peine. Il y a là l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Il y a là la parole qui est pour nous disponible. Et on est dans un contexte où le peuple d'Israël a expérimenté déjà des miracles, des prodiges. Ils commençaient véritablement à faire leurs expériences, à connaître Dieu. Et il en est ainsi de nous-mêmes, nous marchons avec le Seigneur, nous comprenons que sa parole est la vérité, et en tout cas nous tendons vers cela. Nous avons expérimenté que Jésus-Christ est le Fils de Dieu qui nous a lavés, purifiés de tous nos péchés. Nous l'avons expérimenté d'une manière profonde, intime, parce que nous avons connu cette paix qui surpasse toute intelligence, qui surpasse les circonstances qui nous entourent, parce qu'elle vient directement de Dieu. Et pourtant, nous y voyons dans ce texte ce qui peut se passer dans le cœur humain. Alors qu'on sait, parce que je pense que c'est une réalité, que personne ici cet après-midi pourrait dire « Mais non, mais Dieu ne dit pas la vérité, Dieu est menteur ». Ça serait un blasphème de dire cela. Ça serait un blasphème de penser que, alors que le Seigneur fait une promesse, peut-être qu'il a fait plusieurs promesses, en tout cas, en ce qui nous concerne, il a déjà accompli en partie parce qu'il nous a sauvés. Et si nous ne sommes pas sauvés, c'est la promesse, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Et nous savons que Dieu aime ses enfants, aime son peuple, nous aime. Mais simplement, il y a toujours dans notre cœur cette pensée, oui, mais si Dieu, est-ce que Dieu va pouvoir s'occuper de moi demain? Oui, d'accord, Dieu a été avec moi aujourd'hui. Oui, d'accord, il a répondu à mes prières. Oui, d'accord, aujourd'hui j'ai été béni. Mais demain, après-demain, après-après-demain, dans un mois, qu'est-ce qui va en être? Et c'est ainsi, je pense, que lorsque nous lisons la manne, et il y aurait beaucoup de choses à dire, Jésus va reprendre cette image en disant mais c'est moi le pain qui est descendu des cieux, c'est moi cette nourriture. Et nous avons chanté ce chant, mais l'homme ne vivra pas de pain seulement, Nous avons besoin de nous nourrir de la parole de Dieu, parce que c'est dans la parole de Dieu que nous pouvons puiser toutes les forces nécessaires. Et je pense que dans le cœur de Dieu, il y avait vraiment cet enseignement pour le peuple d'Israël. Chaque matin, lorsque vous allez sortir, il y aura cette nourriture pour vous. Et il n'était pas question de sortir une fois pour la semaine, il n'était pas question de sortir une fois pour le mois, il n'est pas question d'avoir une relation avec Dieu seulement quand nous sommes en manque de nourriture, parce que cela biaiserait notre relation, parce qu'on serait semblable à des enfants qui interpellent le père, interpellent son père lorsqu'il n'y a que des problèmes, que des difficultés. Et je pense que l'amour de Dieu se manifeste dans une relation de cœur à cœur. Dieu voulait que son peuple comprenne, et nous devons comprendre que notre abondance ne va pas être au prorata des bénédictions spirituelles que nous allons pouvoir avoir le dimanche, le mardi à la réunion de prière, le jeudi. Notre bénédiction, ce que Dieu veut déverser dans nos vies ne va pas être au prorata du temps que nous allons pouvoir être à l'église, mais ce que Dieu veut, c'est que chaque jour, nous puissions comprendre qu'il a tout à nous donner. Il a tout prévu pour cette journée, pour demain. Alors que on va reprendre, le réveil va sonner pour aller au travail demain. Le Seigneur sait, connaît notre patron. Le Seigneur connaît nos collègues de travail avec qui nous avons des rapports peut-être difficiles, délicats. Le Seigneur sait les projets qu'il y a dans nos cœurs, le Seigneur connaît ce qu'il y a, nos luttes, nos combats, les difficultés qu'il peut avoir. Et le Seigneur, cet après-midi, est en train de nous rappeler, mais ne t'inquiète pas, il y a cet acte tout simple, c'est qu'il y a cette nourriture qui est disponible. Mais est-ce que nous prenons le temps d'aller la prendre? Ou est-ce que nous ne sommes pas tentés, comme le peuple d'Israël, en disant « mais je vais faire une réserve parce que demain je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop si Dieu va être avec moi. Je ne sais pas trop s'il y aura la bénédiction, s'il y aura l'approbation. » Et on essaye de s'amasser un capital spirituel. Mais je pense que lorsque la nourriture est devenue infecte, lorsque les vers, la corruption est sortie, c'est parce que il y a vraiment cette relation qui doit être là dans notre vie. Il y a ce message cet après-midi qui est adressé. Ne vous inquiétez pas. Il y a des difficultés, il y a des combats, il y a des moments de flou dans notre vie. Il y a des moments où on ne sait pas. Il y a des moments qui sont tellement charnières dans notre vie où on doit prendre des décisions précises et on ne sait pas. On est dans le flou. Mais ce qu'il y a, c'est que on ne doit pas perdre de vue que Dieu nous aime, qu'il veut notre bien, que Dieu a tout donné en son Fils. Lorsque Jésus-Christ a dit « tout est accompli », est-ce que vous croyez qu'il parlait uniquement de notre salut? Bien sûr qu'il parlait de notre salut. Mais est-ce que lorsque Jésus-Christ a dit « tout est accompli » sur la croix, il ne parlait pas du lendemain de notre conversion, des 6 mois qui vont suivre notre conversion, des années qui vont suivre, jalonner notre marche chrétienne, où chaque jour nous pouvons dire « mais Christ a tout accompli pour moi ». Il n'y a rien qui soit impossible. Dans la parabole du semeur, j'ai noté ça, il y a ce risque d'entendre la parole, mais de ce que les soucis du siècle, l'inquiétude, viennent étouffer cette parole, et nous fait manquer les bénédictions de Dieu, et nous fait manquer le plan de Dieu, parce que la parole de Dieu est annoncée. Elle est annoncée ici, mais lorsque vous rentrez chez vous, si vous avez la Bible, le Saint-Livre, vous pouvez l'ouvrir, lire, vous pouvez entendre Dieu vous parler. Et je pense que Dieu a une parole pour chacun d'entre nous, cet après-midi, mais ce soir, demain matin, demain après-midi, demain soir, et ainsi de suite, il y a une parole pour nous. Il y a un plan de Dieu pour nous, il y a un chemin pour nous. Mais le danger, c'est de croire que finalement, Dieu n'est plus assez puissant. Dieu a été capable de nous nourrir aujourd'hui, mais l'inquiétude vient nous cloisonner dans cette réalité dans notre réalité qui n'est plus la réalité de Dieu, dans cette réalité que nous nous disons, oui, mais demain il n'y aura rien pour moi. Oui, mais après-demain, il n'y aura rien. Après-demain, il n'y aura rien. Mais laissez-moi vous dire que ça ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu ne met pas de côté celui qui vient. Dieu ne ferme pas la porte à celui qui vient taper à la porte des cieux. C'est Jésus-Christ la porte. Et laissez-moi vous dire que Jésus s'empresse de venir répondre, de venir nous dire, nous montrer ce qu'il y a dans nos vies qui ne sont pas encore réglées, qui n'est pas à sa gloire pour que nous puissions vraiment faire des progrès et apprendre à dépendre uniquement de lui. Pas à dépendre de nos émotions, pas à dépendre de ce qu'on peut penser, ressentir, pas à dépendre de la température spirituelle, de ce que nous avons pu ressentir à la réunion, mais à dépendre de ce que sa parole nous dit. Parce que c'est cela la richesse que Dieu veut déverser dans nos vies. La deuxième chose que nous avons lue dans ce texte, c'est que Dieu avait tout prévu. Il y a des temps dans la vie des chrétiens. Il y a des temps, et c'est ainsi, le sixième jour, la veille du sabbat, il y avait une double portion pour chaque personne, afin que le jour du sabbat soit respecté, le jour du repos soit respecté. Il y avait là, c'était voulu de Dieu, et nous avons lu ensemble que le septième jour, ce qu'ils avaient récolté, pris, n'était pas corrompu. Mais nous avons lu aussi qu'il y a encore quelques personnes du peuple qui sont sorties ce septième jour pour chercher l'inquiétude. L'inquiétude est là, et c'est dur de se dire, mais je veux laisser ça de côté. On peut prendre des résolutions en disant, mais Seigneur, cette fois-ci, je ne vais pas douter. On peut prendre des résolutions en étant ferme, en disant, mais Seigneur, cette fois-ci, je vais rester attaché à ta parole. Mais le doute est là. Dieu a-t-il réellement dit, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, Dieu a-t-il réellement dit, est-ce que Dieu va réellement s'occuper de toi? Est-ce que Dieu va réellement pourvoir à tes besoins? Est-ce que Dieu va réellement pouvoir agir dans ta vie? Et toutes ces questions-là, on a du mal quelquefois à s'en séparer. On a du mal parce que l'inquiétude nous fait perdre de vue la réalité spirituelle, la puissance de Christ, la puissance dans la résurrection, dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Ça m'a fait penser, et j'ai fait un parallèle, j'espère que vous allez saisir ma pensée avec cet enseignement que Jésus-Christ va donner. Nous sommes là, il y a eu la multiplication des pains, ça a été un miracle extraordinaire. Et il est écrit, je le lis pour vous, les disciples en passant à l'autre bord avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples ne vont pas comprendre. Ils vont se dire, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on a oublié de prendre le pain? Est-ce qu'il veut nous parler au sujet des pains? Est-ce qu'il veut nous parler de ceci, de cela? Ils ne vont pas comprendre. Jusqu'au moment où Jésus va insister. Alors la Bible nous dit qu'ils ont compris que ce n'était pas du levain du pain qu'il leur avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Et vraiment, je méditais sur ces passages, l'inquiétude. Et alors que je m'imaginais, la parole de Dieu était claire, ne sortez pas le septième jour, j'ai pourvu. La parole, quelquefois, est tellement claire, n'allez pas dans le monde. La parole de Dieu, quelquefois, est limpide, mais le salaire du péché, c'est la mort. Quelquefois, on est là et on sait que Dieu nous parle. Mais on a du mal parce que il y a eu mille et une choses qui se sont passées dans notre vie et on laisse les expériences passées prendre le dessus sur la doctrine de Dieu. On laisse nos pensées prendre le dessus sur la parole. On laisse mille et une choses et on perd complètement pied avec ce que Jésus veut nous donner. Et alors que je m'imaginais ces personnes sortir le septième jour, je me suis dit, mais est-ce que nous, quelquefois, on n'est pas comme ça? Dieu nous parle. Dieu nous dit, mais faites attention au levain, l'enseignement. Et Dieu nous dit, mais il n'y aura rien, et quelquefois on sort quand même, parce que peut-être qu'il y a cette pensée dans notre cœur. C'est vrai que le Seigneur nous a dit qu'il n'y aurait rien, mais peut-être qu'il y a là un autre levain qu'on pourrait se servir. Il y a là peut-être une autre nourriture qu'on pourrait trouver pour rajouter à la nourriture de Dieu. Le peuple d'Israël avait saisi cela. Ils avaient expérimenté que, de toute manière, ils n'avaient pas besoin de le garder parce que la parole de Dieu avait été annoncée. De toute manière, la fidélité de Dieu s'était déjà prouvée à maintes reprises. Et nous, nous savons que Dieu nous tient dans ses mains, qu'il désire qu'une seule chose, c'est de nous bénir, de nous accompagner. Si nous avons voulu mettre notre vie en règle, et s'il y a quelqu'un qui est là, pris captif dans le péché, Jésus-Christ veut vous libérer. Mais le danger, c'est de se dire, oui, mais le Seigneur me dit ça, j'accepte la parole, mais je vais quand même prendre le levain, un autre levain. Je vais quand même prendre une autre nourriture. Comme ça, je pourrai me faire des réserves. Comme ça, je pourrai faire mes propres mélanges. Comme ça, je suis sûr, je suis plus dans l'inquiétude parce que je vais arriver à maîtriser la situation. Mais ce n'est pas ça que Jésus veut. Ce n'est pas ça. Le danger, c'est de prendre un levain qui n'est pas de Dieu. C'était ça l'enseignement de Jésus-Christ. Et c'est ça l'enseignement sur l'inquiétude. L'inquiétude est là lorsque nous essayons de combler notre manque spirituel par autre chose que Dieu. L'inquiétude est là lorsque nous essayons de sortir en disant « Mais Dieu tarde à l'accomplissement de cette promesse, alors je vais essayer de prendre les devants. Dieu tarde parce que je n'ai pas de réponse, il peut y avoir ceci ou cela. Alors on essaye de prendre les devants. » Mais Jésus nous dit « Mais gardez-vous. Gardez-vous du levain des pharisiens. Gardez-vous de l'enseignement, de la religion. Gardez-vous. » On pourrait traduire différemment cet après-midi, vous comprendrez, ce n'est pas tordre les Écritures. Gardez-vous de la philosophie, gardez-vous de cette pensée de dire « mais toutes les religions sont bonnes après tout ». Gardez-vous de penser que la psychologie peut remplacer les saintes Écritures, que la psychologie peut remplacer la délivrance accordée par Jésus-Christ. Gardez-vous de penser qu'on peut arriver à se débrouiller au niveau financier en sortant du cadre légal parce qu'on a peur que nos fins de mois ne vont pas arriver à se terminer et on ne pense pas que Jésus est tout-puissant pour pouvoir à nos besoins. Et on pourrait multiplier les exemples cet après-midi, mais je pense que vous aurez saisi la pensée. Ne vous inquiétez de rien. Je pense vous le répéter encore quelques fois, vous allez me pardonner. Ne vous inquiétez de rien. Il y a un deuxième texte qui m'a frappé et sur lequel j'aimerais m'attarder avec vous. C'est dans le livre de Jérémie. On pourrait le lire, s'il vous plaît. Au chapitre 49. Jérémie 49. Et nous lisons à partir du verset 23. Le contexte de ces quelques versets se situe sur une prophétie contre Damas par rapport à ce qu'ils avaient fait. Ils s'étaient rendus odieux de la part de notre Seigneur par rapport à Dieu, par rapport à l'Éternel. Et il y a là cette prophétie, il y a là c'est comme une condamnation. Mais je pense que quelquefois nous sommes dans ces cas-là, même si nous ne sommes pas odieux à l'égard de Dieu, même si nous ne sommes pas en abomination face à l'Éternel, on peut se retrouver dans cette configuration. Nous lisons ensemble Jérémie 49, verset 23, sur Damas. Hamat et Arpad sont confuses, car elles ont appris une mauvaise nouvelle. Elles tremblent. C'est une mère en tourmente qui ne peut se calmer. Damas est défaillante, elle se tourne pour fuir, et l'effroi s'empare d'elle. L'angoisse et les douleurs la saisissent comme une femme au travail. Le deuxième point, c'est l'inquiétude vient paralyser notre vie spirituelle. Je l'ai dit, c'est un contexte particulier, mais cet après-midi, Je pense que plusieurs pourraient dire, mais ces quelques versets que nous avons lus, je m'y suis retrouvé, j'y étais à un moment donné dans ma vie. J'ai tremblé lorsque j'ai appris une nouvelle. Il y a des nouvelles qui nous font trembler. Je pense qu'on pourrait être tous d'accord cet après-midi. Il y a des choses qu'on entend, il y a des choses qui se passent dans notre vie, qui nous font trembler. L'image de notre vie, c'est ce qui est écrit, c'est une mer en tourmente. Ce n'est pas une mer calme, limpide, c'est une mer en tourmente qui ne peut se calmer. Damas est défaillante, on pourrait dire cet après-midi, mais parce que je m'inquiète, ma vie est en train de défaillir, je suis en train de perdre pied dans ma foi, je suis en train d'être cloisonné, alors que Jésus-Christ nous dit de ne pas s'inquiéter, alors que Jésus-Christ a dit « mais tout a été accompli », alors que Jésus-Christ nous dit « mais je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, pourtant il y a des nouvelles qui m'ont fait perdre pied ». Je me tourne pour fuir, l'effroi s'empare de ma vie, l'angoisse et les douleurs la saisissent, me saisissent. J'aimerais dire à quelqu'un que si vous êtes, si on est dans cette situation-là, ce n'est pas désespéré, ce n'est pas fini, parce que, et vous l'aurez compris avec moi, Jésus-Christ est encore le même pour calmer les tempêtes de notre vie. Jésus-Christ n'a pas changé pour que nous puissions comprendre qu'il est tout-puissant, pour calmer les vents contraires, qu'il est tout puissant pour dire, mais quand bien même tu t'es inquiété, si tu reviens à moi, on pourrait traduire mer en tourmente, le mot tourmente, par anxiété, angoisse, inquiétude, la crainte, la peur de ne pas s'en sortir. Et bien sûr, vous l'aurez compris, il y a ce passage dans Matthieu chapitre 14, les évangiles relatent ce fait, où les disciples sont sur la barque et ils rament, mais les vents sont contraires. L'inquiétude, quelquefois, nous fait penser qu'on n'avance plus dans notre vie chrétienne. Pourtant, on est sur l'eau, pourtant, on essaye d'avancer, pourtant, on essaye d'aller à l'autre bord. Et l'inquiétude est telle qu'on a l'impression de faire du surplace, si ce n'est de reculer un petit peu. Et ce qui va tout changer, et c'est ce qui changera toujours dans notre vie, ce n'est pas notre façon de ramer qui va faire la différence. Ce n'est pas le modèle de notre barque. Ce n'est pas la qualité de notre barque. Ce n'est pas si nous avons la dernière version de notre barque. Ce qui changera tout, c'est lorsque Jésus va venir. Ce qui nous fait comprendre que on ne peut ne pas s'inquiéter, ce qui nous fait saisir ces réalités spirituelles, c'est de comprendre que le futur nous échappera toujours. La journée de demain ne nous appartient pas. Ce qui va se passer en sortant de ce lieu ne nous appartient pas. Mais ce qui fera et qui fera toujours la différence, c'est de savoir que Jésus-Christ est avec nous. Ce qui fera la différence, c'est d'entendre la voix de Jésus-Christ nous dire « Mais rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. » Bien sûr, ce texte, on se souvient lorsque Pierre va sortir de la barque. Et peut-être qu'il y a quelques personnes ici qui se sont dit « Mais j'ai vaincu l'inquiétude, j'ai répondu à Jésus-Christ, je suis sorti de la barque. » Mais il y a toujours ce vent qui est là. Il y a toujours ces choses qui viennent pour essayer de nous déstabiliser dans notre vie chrétienne, dans notre attachement à Christ, dans notre confiance que nous allons lui faire pour demain, après-demain, sur les différents sujets qui nous tiennent, sur notre piété. Est-ce que je vais réussir à tenir bon? Est-ce que je vais tenir jusqu'à la fin? Est-ce que je vais réussir à honorer Dieu? On peut vivre des combats terribles. On peut sortir de la barque et entendre encore un vent. On peut sortir de la barque, faire quelques pas, et pourtant, lorsque nos yeux se séparent de Christ, on commence à couler. On commence à couler, et l'inquiétude, c'est ça. Mon frère, ma sœur, mon ami, cet après-midi, l'inquiétude, c'est ça. C'est de commencer, ou peut-être recommencer, à fixer nos regards sur les vents contraires, sur les bruits qu'on entend. en se séparant de la vision de notre Sauveur. Oui, Damas est défaillante. Peut-être que tu dis que tu es défaillant dans ta vie, peut-être que tu dis que les choses t'échappent, mais cet après-midi, ce n'est pas écrit, ce n'est pas dans la volonté de Dieu qu'on demeure dans la crainte, dans l'inquiétude. Dans la volonté de Dieu, c'est qu'on puisse sortir de la barque en disant « Mais Seigneur, je peux marcher sur la tempête avec toi. Je peux marcher sur mes inquiétudes avec toi. Je peux aller de l'autre bord à l'autre bord avec toi parce que tu fais la différence. Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. » Est-ce que ces mots ne sont pas doux dans la bouche de notre Sauveur? Est-ce que cet après-midi, on ne peut pas se saisir de ces mots pour nos vies en disant « Mais c'est vrai, je ne veux pas simplement le lire, je ne veux pas simplement l'entendre, je veux le saisir par la foi et faire mienne ces paroles pour que je puisse être stable, ne pas aller de droite et de gauche, ne pas être agité, mais avoir cette stabilité spirituelle qui se retrouvera dans ma vie de tous les jours. » J'aimerais conclure avec ce texte. C'est un texte qu'on connaît. C'est dans Jérémie 17, on peut le lire si vous voulez. Jérémie 17, on va lire à partir du verset 7. Il est écrit « Béni soit l'homme ». Je vous invite à lire les quelques versets d'avant si vous voulez voir ce qui attend l'homme qui se confie dans l'homme. En tout cas, cet après-midi, nous lisons « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. » Et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Et c'est là une vie, vous l'aurez compris, c'est là une vie en dehors de l'inquiétude, une vie qui recherche le royaume et la justice de Dieu. La version littérale nous dit ceci. Il ne voit pas venir la chaleur, son feuillage est luxuriant. Et regardez ce qu'il est écrit, l'année de sécheresse, il ne se soucie pas. Il ne se retire pas sans faire de fruits. L'année de sécheresse, il ne se soucie pas. Il n'est pas dans l'inquiétude, l'année de sécheresse. Lorsqu'il semble qu'il y a des déserts, vous savez, on en parle. Dans la vie chrétienne, il se peut qu'il y ait des déserts. Il se peut qu'il y ait des mois de sécheresse. Vous êtes d'accord cet après-midi qu'on dise cela? Il se peut qu'on vive des temps où il semblerait qu'il n'y ait plus de pluie qui vienne arroser notre terre. Mais celui qui garde sa confiance en Christ, celui qui comprend qu'il n'a pas à s'inquiéter du lendemain, de ce qui va se passer, parce que Jésus est avec lui, il ne se soucie pas de la météo. Il ne se soucie pas de l'actualité. Il ne se soucie pas de ce qui peut arriver. Il ne se soucie pas de son compte en banque. Il ne se soucie pas de demain après-demain. Parce qu'il sait, que ce qui lui permet de porter du fruit, c'est pas nous, mais c'est d'être attaché à Jésus-Christ. Dieu est le Dieu du rétablissement, de la reconstruction. Dieu est le Dieu qui veut nous amener à nous saisir des promesses qu'il nous fait, si nous voulons, bien sûr, nous n'avons pas lu, mais si nous voulons nous confier en l'Éternel. Il est évident que si nous sommes dans le contexte où si nous sommes un homme qui voulons, ou une femme, nous voulons nous confier dans l'homme, alors il y a des difficultés, il y aura des problèmes, il y aura un parcours qui va nous mener très loin de Dieu. Cet après-midi, choisissons, comme nous dit l'Écriture, choisissons la vie et non la mort. Choisissons d'être attachés à Jésus-Christ. J'aimerais terminer juste sur ce passage de Jérémie 49, faire un petit passage en arrière, parce que parce que nous avons vu la ville de Damas qui était là en proie à une condamnation. Damas a été une ville qui a traversé l'histoire, vous savez. Et il y aurait beaucoup de choses à dire, mais on la connaît. Et peut-être que lorsque nous avons lu cela, le mot Damas vous a fait penser à un texte en particulier. Damas a été sous la domination des Babyloniens, des Perses, des Séleucides et des Romains. Elle a traversé les âges, les siècles, elle a traversé les dominations, elle a traversé les différents modes politiques. Elle a été dans l'idolâtrie, des choses terribles. Ça a été terrible pour cette ville. Elle a été condamnée par Dieu par rapport aux abominations qui se passaient. Mais voilà la reconstitution. Voilà ce que Dieu veut faire. Voilà la délicatesse de Dieu. Parce qu'avec le Seigneur, il n'y a pas de point de non-retour. Il y a toujours une possibilité parce que Christ a payé, s'est donné sur le bois de la croix. Parce que Damas, c'est l'endroit, et vous l'aurez compris, où l'apôtre Paul était en chemin, où l'apôtre Paul a été touché. Damas a été une ville où l'apôtre Paul est resté, où il a été touché par Dieu. Damas a été une ville où une des premières prédications de l'apôtre Paul a eu lieu, où une des premières prédications sur le salut en Jésus-Christ a été prêchée. Cette ville, personne n'aurait parié dessus. Et peut-être dans nos vies, personne ne va parier sur nous. Peut-être que nous sommes là, les autres nous regardent avec mépris en disant « mais t'arriveras à rien ». Peut-être nous-mêmes, nous nous regardons en disant « c'en est fini ». Et je m'écarte un peu du sujet, mais j'avais vraiment ça sur le cœur. Il n'y a pas de point de non-retour. Nous avons un Dieu qui reconstruit, un Dieu qui bénit, un Dieu qui rebâtit sur d'anciennes ruines, un Dieu qui a pitié de toutes nos ruines. Et nous devons saisir que les bras de Dieu sont encore ouverts. Si nous voulons aller dans ses bras, si nous acceptons d'être repris par Dieu, si nous acceptons de nous repentir lorsqu'il nous demande de nous repentir, si nous acceptons de demander pardon à Dieu, mais également à un frère, une sœur qu'on a blessé, un membre de nos familles, peut-être que c'est difficile. Mais c'est cela le chemin de la reconstruction. C'est cela. Peut-être nous avons été cette Damas qui a été défaillante. Mais Dieu veut que nous soyons une habitation à son honneur, une maison stable, bâti sur le roc. Amen. On prie quelques instants, si vous le voulez bien. Notre Dieu, merci. Merci pour ce que tu fais. Merci parce que tu nous rappelles de ne pas nous inquiéter. Tu nous rappelles que tu as tout accompli, que tu es avec nous tous les jours. Merci pour la croix, pour ton sacrifice qui est encore efficace aujourd'hui. Oui, tu désires nous laver, purifier de tous nos péchés. Tu désires que nous abandonnions le monde, les idoles de ce monde, notre ancienne vie pour venir dans tes bras, parce que la paix est auprès de toi, Jésus-Christ. L'inquiétude est dans ce monde, mais auprès de toi, nous avons le repos de nos âmes. C'est cela ton invitation, Père, je te prie, s'il y a là dans ce lieu des bien-aimés qui n'ont pas fait encore la paix avec toi, qu'ils puissent le faire maintenant, qu'ils puissent, Seigneur, comprendre que tu les as aimés au point de donner ton Fils, Jésus-Christ. S'il y a des personnes qui ont fait déjà cette expérience, mais qui se sont laissées étouffer par les soucis de ce siècle, par les inquiétudes, qui se sont laissées stopper dans leur vie, dans leur marche chrétienne, par tout ce qui les environne, mon Dieu, montre-leur que Jésus-Christ est encore tout-puissant pour calmer les tempêtes, pour marcher sur les tempêtes et nous faire, nous, marcher sur les tempêtes avec lui. Merci, Père, pour cet amour que tu manifestes à notre égard. Veuille nous bénir et que nous puissions méditer ta parole, afin que nous puissions porter du fruit. Oui, Seigneur, merci, Père, et dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.